Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec l'historien et maître de conférence à l'Université de Nantes, Bernard Michon. La semaine dernière, nous avons évoqué la traite orientale, une des plus importantes de l'histoire du continent africain. Au XVIe siècle, une autre traite négrière a commencé, la traite occidentale. Aujourd'hui, et durant tout ce cycle d'émissions, nous allons parcourir ensemble l'histoire de ce commerce que l'on nomme parfois commerce triangulaire, puisqu'il concerne les continents européens, africains et américains. Bernard Michon, vous êtes spécialiste de la traite négrière occidentale. Avec vous, nous allons découvrir ou redécouvrir 300 ans d'histoire dont les héritages nous éclairent sur notre monde contemporain. Et nous commençons aujourd'hui par en rappeler les grands faits. Bonjour Bernard Michon.
Bonjour à vous.
Une question d'abord sur les termes. J'ai parlé de traite occidentale, de commerce triangulaire, on parle aussi de traite atlantique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différentes appellations ?
Le terme de traite occidentale est préférable à celui de traite atlantique, même si on l'utilise fréquemment les deux. En effet, il faut avoir en tête qu'une partie des esclaves noirs qui sont déportés par les Européens le sont à destination de colonies qui sont situées dans l'océan Indien. Ainsi, en utilisant uniquement le terme de traite atlantique, on est par trop réducteur. Autre appellation très fréquemment utilisée, et vous l'avez utilisée, c'est celle de commerce triangulaire. Quand on parle de commerce triangulaire, on étudie le circuit qui va de l'Europe vers l'Afrique et ensuite à destination de l'Amérique, sachant que le navire a pour finalité de revenir à son port d'origine. Il faut là aussi nuancer. Cette appellation est tout à fait valable pour la traite française ainsi que la traite anglaise, mais en l'occurrence, elle ne correspond pas à une partie de la traite portugaise qui est réalisée en droiture depuis le Brésil, c'est-à-dire que les navires partent des ports négriers brésiliens, comme Salvador de Bahia par exemple, à destination des côtes africaines, avec pour objectif de revenir chargés de captifs directement dans les colonies portugaises sans passer par l'Europe. Donc vous voyez que derrière ces appellations, on peut avoir des réalités sensiblement différentes.
Justement, vous avez commencé à parler des pays concernés. Alors quels sont les grands pays, les grandes nations qui se sont constituées à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle avec le début de la traite occidentale? Quels sont ces pays?
Alors, les premiers inventeurs, si vous voulez, de la traite occidentale sont les Portugais. Et là, je vous renvoie aux travaux de l'historien Antonio Mendes de Almeida, qui a étudié les débuts de cette traite portugaise. Les Portugais se lancent dans des voyages d'exploration maritime au XVe siècle à travers l'établissement de contacts le long des côtes africaines et ils ne tardent pas à ramener en péninsule ibérique un certain nombre de captifs noirs. Quand on parle de traite occidentale, on a la finalité de déporter des captifs vers les colonies européennes. Ces colonies se mettent en place à la suite des grands voyages d'exploration maritime qui aboutissent à la découverte d'un continent qui était inconnu jusqu'alors des Européens. Quand on dit par exemple que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il s'agit évidemment d'un abus de langage. Christophe Colomb n'a rien découvert du tout simplement parce que le continent américain n'était pas vide d'hommes à l'arrivée des Européens. Donc, ces colonies se mettent en place à partir du XVIe siècle et deviennent assez rapidement, on verra dans quelles circonstances, des colonies esclavagistes. Quatre grandes puissances européennes se partagent 90% de la traite occidentale. D'abord les Portugais, avec environ 4 600 000 esclaves déportés à travers évidemment le Brésil. Le Portugal est la première puissance négrière européenne et, si vous voulez, c'est la puissance qui établit ce trafic sur le plus long terme. Elle a été pionnière et elle continue à le faire tardivement. La deuxième puissance, c'est l'Angleterre, avec 2 600 000 captifs. L'Angleterre qui domine largement le commerce des esclaves européens au XVIIIe siècle. En troisième position, on retrouve l'Espagne, avec 1 600 000 captifs. La particularité de l'Espagne, c'est qu'elle ne participe que très peu directement à la traite, mais les colonies espagnoles d'Amérique du Sud sont des colonies qui ont besoin de beaucoup de captifs, et donc c'est par des traités d'approvisionnement que les couronnes espagnoles, les couronnes ibériques, reçoivent des esclaves. Et enfin, en quatrième position, la France, avec environ 1 300 000 esclaves.
À quel moment les Occidentaux ont donc commencé à déporter des captifs africains dans les colonies ? Vous avez parlé du Portugal, concernant les autres nations.
Alors, cela s'est fait pratiquement dès le début de l'époque coloniale. C'est-à-dire que dès le début de la colonisation, on a des traces d'arrivée d'esclaves noirs africains, donc dans ce que les Européens qualifient de « nouveau monde ». Cela se systématise véritablement dans le dernier quart du XVIIe siècle, où là, on change d'ampleur. Et ce qui explique ce changement d'ampleur dans la traite occidentale, c'est la mise en place de la culture de la canne à sucre. Cette culture de la canne à sucre nécessite des bras beaucoup plus nombreux que les cultures du tabac qui étaient alors dominantes. On a donc un grand besoin de main-d'œuvre. Et le système des engagés européens, utilisé dans les premiers temps de la colonisation, ne permet pas de fournir suffisamment de bras. Les Amérindiens ont été largement exterminés durant le XVIe siècle, et c'est ainsi que l'on se tourne vers les captifs déportés depuis le continent africain.
Comment les Occidentaux sont-ils entrés en contact avec les royaumes et empires d'Afrique pour acheter ces personnes et les déporter vers les Amériques?
Il faut d'abord savoir que l'Afrique noire n'est pas totalement inconnue des Européens. On a un certain nombre de traités de voyageurs arabes, en particulier durant l'époque médiévale, qui décrivent les réalités des royaumes africains. Par exemple, un personnage comme le Mansa Moussa, que nous avons déjà évoqué lors d'une précédente émission, est connu des Européens. Il est même représenté sur un portulan, donc c'est-à-dire une carte catalane, comme un souverain de type européen, avec un trône, un sceptre et une couronne. Donc l'Afrique noire n'est pas inconnue des Européens. Par ailleurs, le monde méditerranéen voit l'arrivée d'un certain nombre d'esclaves noirs africains qui sont issus des courants de traite arabo-musulmane. Les Portugais vont nouer des contacts à travers leur voyage d'exploration maritime avec d'autres royaumes, en particulier les royaumes donc des littoraux ouest-africains. Et c'est à partir de ces échanges-là que vont naître l'idée de ramener d'abord en péninsule ibérique des esclaves noirs et ensuite de les utiliser dans des plantations qui vont se mettre en place du côté des îles Madère et ensuite de leur faire traverser l'océan Atlantique.
Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Quels sont les principaux ports européens d'où partaient les navires négriers et quelles étaient leurs destinations sur les côtes africaines?
Les principaux ports négriers européens sont d'abord anglais. Le premier port négrier européen, c'est celui de Liverpool, suivi par Londres et Bristol. En quatrième position, on retrouve le port de Nantes. Alors, on peut être surpris de ne pas retrouver de port portugais dans ce classement, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les Portugais effectuent directement leurs opérations négrières depuis les ports brésiliens. Alors, les destinations le long de la côte africaine sont diverses. Et je dirais que progressivement, au cours du XVIIIe siècle, les Européens vont de plus en plus loin le long de la côte africaine. L'essentiel de la traite se fait dans un premier temps dans les territoires bordant le golfe de Guinée. Puis on va de plus en plus vers le sud, dans ce que l'on appelle alors la côte d'Angole, qui ne correspond d'ailleurs pas tout à fait au territoire de l'Angola actuel, hein, qui se situe donc plus au sud pour l'Angola actuel. Et enfin, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, on voit une tendance des Européens à franchir le cap de Bonne-Espérance et à réaliser leur traite le long de la côte du Mozambique.
Combien de temps dure une traite d'un navire partant par exemple de Nantes en direction des côtes africaines puis de l'Amérique ?
Les chiffres sont très variables. Quand on parle de moyenne, hein, les chiffres que je vais vous donner ne sont évidemment pas une réalité intangible. On estime qu'un voyage de traite dure environ 15 à 18 mois. Mais dans ces 15 à 18 mois, il faut tenir compte d'aléas de type la durée du séjour africain. Est-ce qu'on arrive à échanger la cargaison européenne contre les captifs de manière satisfaisante et rapide ? Ou au contraire, est-ce qu'on a des difficultés ? Et l'aléa également qui rentre en considération, c'est la durée de ce qu'on appelle le Middle Passage, c'est-à-dire la traversée de l'Atlantique.
Sur quelle période et combien de personnes ont été déportées pendant la traite occidentale ?
Il faut savoir que les traites occidentales sont les mieux connues des historiens, dans la mesure où elles ont produit la documentation la plus abondante. Et les chiffres que l'on peut donner de l'ampleur de ce phénomène de déportation sont relativement précis. Je pense grâce en particulier à la base de données que nos collègues anglo-américains ont conçue et réalisée. Donc les collègues David Eltis et David Richardson ont réalisé une gigantesque base de données, consultable en ligne, de l'ensemble des expéditions négrières mises en place par les Européens. On aboutit au fait qu'entre 12 et 13 millions d'Africains ont été déportés par ces traites occidentales. Ce qui caractérise également la traite occidentale, c'est sa très grande intensité entre le milieu du XVIIIe siècle et les années 1830. On a là l'essentiel de la déportation réalisée par les Européens.
Bernard Michon, merci. Cette émission était présentée par l'association nantaise Les Anneaux de la Mémoire. Nous revenons la semaine prochaine à la même heure. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Excellente journée et à bientôt. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.